نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، بعد غياب قصير يسرني أن أتواجد بين أظهركم مرة أخرى لنواصل معكم رحلتنا في تفسير هذه الآيات الكريمات من كتاب رب الأرض والسماوات. وقد أنهينا الحديث في الخطبة السابقة عند قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونحن اليوم بمشيئة الله سبحانه مع قوله عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيها الإخوة، إنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس إلا بالحق، وأن هذه الخطيئة هي من أكبر الكبائر بعد الكفر والعياذ بالله. ولأجل ذلك كان عباد الرحمن أبعد الناس عن هذه الجريمة البشعة، لأنهم علموا أن الله تعالى جعل قتل النفس الواحدة تعدل جريمة قتل الناس جميعا، وذلك لأن حق الحياة ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعديا على الحياة البشرية كلها، كما قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها الإخوة، لست محدثكم اليوم عن القتل المعروف لدى الناس، لأن وقوعه صار نادرا في مجتمعنا هذا، لكن قد يكون المرء قاتلا وهو لا يشعر، فينبغي للمؤمن الذي يريد أن يكون من عباد الرحمن أن يتجنب جميع أنواع القتل المحرم حتى يتحقق فيه ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما ابتليت به أمتنا في زمننا هذا ما يسمى عند كثير من الناس بالعملية الاستشهادية، وهي في الحقيقة عملية انتحارية، وهي تصدر من أناس ينتسبون إلى الإسلام وليس لعملهم هذا أصل في ديننا الحنيف، بل مثل هذه الأعمال محرمة في شرعنا المطهر والحمد لله. هذه العمليات أيها الأخيار، القصد منها أن يتحزم رجل أو امرأة بقنابل مخفية تحت ملابسه ويذهب بها في الشارع أو السوق وما أشبه ذلك، ثم يفجرها صاحبها يقتل بذلك نفسه والناس حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حصل ذلك مرارا ولا زال في بلدان المسلمين وغيرهم، وما سبب هذا القتل إلا لأن هذا المنتحر يحسب أن قتل النفس وإهلاكها في مواجهة العدو من الجهاد في سبيل الله فكم من شخص لم يحصل بعد قتل نفسه بعد قتل نفسه إلا جرح العدو إن كان هناك عدو، أو قتل عجائز وأطفال، أو تطاير أجزاء بدنه بلا نتيجة، وهم بذلك خالفوا الإسلام الذي هو دين الرحمة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وخالفوا الله عز وجل الذي نهى عن قتل المؤمن فرغموا إخوانهم عمدا وفجروهم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قتل النفس وتوعد على ذلك، كما جاء في صحيح البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وبتحريم هذه العمليات أفتى العلماء الذي لهم أهل العلم الصحيح المنتقى من الكتاب والسنة وأهل العدل والمنهج السليم. فقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن العمليات الانتحارية فقال: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من المجتمعات قاتل لنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه. وعجبا من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم من يفعلون ذلك هل يحصدون شيئا؟ هل ينهزم العدو أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات كما هو مشاهد الآن، حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكا بعنجهيتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أنواع القتل المحرم أيها الإخوة والأخوات إسقاط الجنين بدون أن يكون هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. فقد أفتت اللجنة الدائمة أن الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي. فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له 40 يوما فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم، جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير الشرعية. أما إن زاد الحمل عن 40 يوما حرم إسقاطه، لأنه بعد 40 يوما يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل. انتهى كلامهم رحمهم الله. فإسقاط الجنين محرم من غير ضرورة، وتشتد حرمته إذا بلغ الجنين 4 شهور، لأن الروح قد نفخت فيه واكتمل خلقه، واعتبر ذلك من قتل النفس التي حرم الله. ومن أنواع القتل المحرم أيها الأحباب أصحاب السيارات والدراجات النيرانية الذين يقودون بسرعة جنونية ومعهم ركاب، فإذا أصابهم حادث مروري ومات أحد الركاب يعتبر السائق قاتلا له. قال شيخنا العثيمين رحمه الله: إذا حصلت إصابة في أحد الركاب الذين ركبوا مع السائق باختيار منهم لا يخلو الحادث من حالتين: الحال الأولى أن يكون بتعد من القائد، وذلك على سبيل التمثيل للحصر، مثل أن يسرع بالسيارة سرعة تكون سببا للحادث، أو يضرب على الفرامل بقوة لغير ضرورة فيحصل الحادث بذلك التعدي. الحال الثانية أن يكون بتفريط من القائد، والفرق هو أن التعدي فعل ما لا يسوء، والتفريط ترك ما يجب، وذلك على سبيل التمثيل للحصر، مثل أن يتهاون في غلق الباب أو في تعبئة العجلات أو في إصلاح شيء يحتاج إلى إصلاح فيحصل الحادث بهذا التهاون. ففي هاتين الحالين يترتب وجوب الكفارة على القائد، وهي عتق رقبة لكل نفس آدمي معصوم مات به، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض أو نحوهما. ويترتب أيضا ضمان ما تلف من الأموال على القائد، وضمان دية النفوس على عاقلته. انتهى كلامه رحمه الله. أما ما عليه الناس اليوم في هذا البلد وغيره من نظام التأمينات التي تدفع للمصاب مبلغا من المال بدل القاتل، فإن ذلك لا يبرئه يوم القيامة أمام ربه، بل لا بد من الكفارة ليكفر الله تعالى بها هذه الخطيئة العظيمة. ومن أنواع القتل المحرم من مات بسبب التدخين، فلا يخفى على العقلاء أن شرب الدخان والشيشة من الخبائث التي حرمها الله عز وجل على عباده. ورغم هذا ما زلنا نتعجب حينما نرى أناسا في هذا المسجد وغيره يخرجون منه بعد صلاة الجمعة ويشعلون سجائرهم أمام المسجد والناس ينظرون. اعلموا يا من تحبون الخبيث وتتركون الطيب ولا تستحيون من نظر الله إليكم، فكيف تستحيون من نظر الناس إليكم؟ اعلموا أنكم لو متتم بسرطان أو غيره من الأمراض التي سببها الدخان تعتبرون ممن سعى في قتل نفسه. ولقد سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شرب الدخان فأجاب أن التدخين حرام، ومن أدلة تحريمه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه. ومن أنواع القتل المحرم ما يسمى بقتل الرحمة، وهو تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلب ملح منه مقدم للطبيب المعالج. ويقسم الأطباء ما يسمى بالموت الرحيم إلى قسمين: قتل الرحمة الإيجابي أو تيسير الموت الفعال، وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يؤدي بحياة المريض المصاب مثلا بالسرطان والذي يعاني من الألم، وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته. وقتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت المنفعل، وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميؤوس من شفائه، وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج، مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه عندما يحتاج إليه المريض بناء على طلب المريض أو عدم إعطائه العقاقير التي تعالج الأمراض الأخرى. ولقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم ذلك، فقالت يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على الطبيب أو الممرض أو غيره أن يلبي طلبه ولو كان مرضه لا يرجى برؤه. ومن أعانه على ذلك فقد اشترك معه في الإثم، لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمدا بلا حق، وقد دلت النصوص الصريحة على تحريم قتل النفس بغير حق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كان الإنسان منهيا عن مجرد تمني الموت وسؤال الله ذلك، فإن إقدام الإنسان على قتل نفسه أو المشاركة في ذلك تعد لحدود الله وانتهاك لحرماته، لأن فعل ذلك ينافي الصبر على أقدار الله، وفيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وجزع من ذلك الذي اقتضت حكمته أن يبتلي عباده بالخير والشر امتحانا واختبارا لعباده. أما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم، فإنهم آثمون بذلك ونظرتهم قاصرة، ويدل ذلك على جهلهم. نفعني الله وإياكم بما سمعناه، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Mes frères, après une courte absence, me voici de nouveau parmi vous, éprouvant par cela une joie immense dans un contexte dans lequel nous allons une fois de plus expliquer ou apprendre des informations concernant les versets de Sourate Al-Furqan. Nous avons arrêté notre précédent discours sur le verset où Allah Ta'ala dit: quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah votre divinité. Et aujourd'hui, on continue le verset où Allah Ta'ala dit: وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ils ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdit, sauf par justice. Mes frères, personne ici ignore l'interdiction qui pèse sur ce fait-là, concernant le meurtre. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a interdit d'attenter à la vie d'autrui. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler du meurtre de façon directe et générale, pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente est que nous vivons dans une société où, alhamdulillah, ce type de méfaits arrive assez rarement, seulement de la part des criminels. Sinon, les gens entre eux respectent ce caractère social. Mais il arrive des fois que l'être humain soit un meurtrier sans qu'il ne s'en rende compte, ou bien qu'il soit la cause de la mort de quelqu'un, ce qui le rendra meurtrier, et lui ne pense pas à ce genre de choses-là. Mes frères, Ibad al-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, sont des gens qui savent quelle valeur détient la vie humaine, qui savent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a informé dans le Coran que celui qui tue une âme sans raison valable, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc, il n'atteigne pas la vie des autres. Donc, le caractère normal, quelqu'un vient et tue quelqu'un, c'est marouf, c'est connu. Mais il y a des façons de tuer qui arrivent tous les jours autour de nous et qui font de ces gens-là des meurtriers qui nous passent au-dessus de la tête. J'en ai réuni quelques-unes. La première est la plus importante, parce qu'à cause de ceci, la communauté musulmane a été éprouvée et est toujours éprouvée dans cette époque dans laquelle nous vivons. Il s'agit de ce que beaucoup de gens appellent les opérations martyrs. Mais la réalité, et qu'on devrait appeler ceci des opérations suicides. Eux, ils appellent ça des opérations martyrs parce qu'ils croient qu'en faisant cela, ils sont des martyrs auprès d'Allah. Mais en réalité, ils n'ont fait que se suicider et tuer d'autres personnes. Cette opération n'a aucune source dans l'islam. Au contraire, l'islam, qui est la religion de la miséricorde, interdit à l'être humain de mettre fin à ses propres jours. De même, il interdit à l'être humain, il interdit aux musulmans de mettre fin volontairement à la fin d'un autre musulman. Ces gens-là qui font ceci, comme vous le savez tous, malheureusement, au moins une fois par semaine, on en entend aux informations, un tel ou une telle qui a caché une ceinture d'explosifs sous ses vêtements, qui s'est fait exploser ici ou là, et qui a emporté avec elle d'autres personnes. Ces gens-là qui font ça, ils croient que cette opération fait partie du jihad fi sabilillah. Mais elle n'a aucune source dans la législation islamique. Au contraire, elle contredit les principes et les règles que l'islam nous impose. Et lorsque on voit ce qui arrive après, on se demande qu'est-ce qu'ils ont récolté. Est-ce qu'ils ont vraiment touché les ennemis comme ils le prétendent, si vraiment il y a des ennemis? Parce que ce genre d'opération arrive autant dans les pays non musulmans que dans les pays musulmans. Parce que ces personnes qui font ça, même s'ils vivent au milieu des musulmans, pour eux, les autres ne sont pas des musulmans. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire de telles choses. Alors en faisant ceci, ils enchaînent, ou du moins, ils s'ajoutent deux grands péchés. Ils se tuent eux-mêmes et ils tuent des musulmans volontairement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, quant à celui qui tue un croyant volontairement, sa rétribution ne sera que la colère d'Allah et l'enfer éternel et un châtiment terrible. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe dans de nombreux hadiths que celui qui se tue, il sera châtié en enfer de la même façon qu'il s'est tué. Celui qui s'est pendu, il sera châtié en enfer éternellement. Cependant, celui qui s'est planté une épée ou une arme blanche, il mourra de la même façon éternellement en enfer et ainsi de suite. Et les savants, les vrais, les bons, ceux qui puisent leur science du Coran et de la Sunna, selon la bonne compréhension des vieux prédécesseurs, sont unanimes quant à l'interdiction de ces opérations. Il est interdit aux musulmans de faire de telles choses. Cheikh Al-Taymin rahimahullah, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, celui qui fait ceci s'est suicidé. Il n'est pas mort martyr, non, il s'est suicidé. Et qu'est-ce qu'il a récolté de son acte? Si ce n'est déchiqueter son corps en de nombreuses parties différentes, ou bien avoir tué peut-être des vieilles femmes et des filles, ou bien des enfants, des personnes qui n'ont aucun lien direct avec le conflit en lui-même, ou autre. Et même si on regarde plus loin, dans le cas où il voulait toucher des ennemis, ça n'a fait que donner aux ennemis des raisons supplémentaires pour faire du mal à la communauté. Donc, al-hasil, il n'y a aucun point positif dans ces actions-là. Et comme il disait Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, « Kam min muridin lil khayr, lam yusib » Combien de personnes veulent le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Eux, ils croient faire le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Au contraire, ils ne récolteront que du mal. C'est pour ça qu'on insiste et on répète, et on ne cessera d'insister et de répéter, Inch'Allah, que ce n'est pas ce que toi tu vois qui est bien, que forcément c'est bien. Ce n'est pas à toi de déterminer la balance et de juger les choses comme étant bien ou mauvaise. Nous tous ici, on a des façons de voir les choses différentes. Nous tous ici, on a des goûts différents. Toi, tu peux aimer ça, et moi, je peux le détester. Et toi, tu peux voir cette chose comme étant bonne, et moi, je peux la voir comme étant mauvaise. Ce n'est pas à nous de décider. C'est au Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et au prophète alayhi salatu wa salam, et à personne d'autre. C'est là-dessus qu'on doit se reposer. Et c'est là, et à partir de ça seulement, qu'on peut déterminer si la chose est bonne ou mauvaise. Parmi les façons d'attenter à la vie d'autrui, ce qu'on appelle l'avortement. Ce qu'on appelle l'avortement. Et ça, on vit dans une société où c'est commun, où c'est répandu, où même il y a des associations qui défendent ceci. Mais sachez mes frères et mes sœurs qu'il est interdit. Et l'interdiction se pose sur différentes parties. En premier lieu, il est interdit d'avorter et de mettre fin à la vie du fœtus, quel que soit son âge ou sa durée de vie, s'il n'y a aucune raison permettant ceci. D'accord ? Comme on entend souvent des gens qui disent « c'était une grossesse non voulue » ou bien « j'ai déjà 5 enfants, j'en veux pas 6 » et ainsi de suite. Alors, dès qu'ils savent que la femme est enceinte, ils l'emmènent directement pour qu'elle avorte. Et ceci est interdit, même si le fœtus n'a pas encore atteint 40 jours dans lequel il devient un caillou de sang. Ensuite, dans le cas où le fœtus atteint 40 jours et qu'il a été stipulé de la part des médecins dignes de confiance, comme quoi il y a un risque de mort et de danger pour la mère dans le cas où elle garde ce fœtus, alors il lui est autorisé d'avorter, que ce soit avant les 40 jours ou après. Mais lorsqu'elle atteint 4 fois, donc 40 jours, prenons 3 fois 40 jours, ce qui fait 120 jours, on n'a plus le droit d'avorter. Parce qu'à partir de cette période-là, le fœtus a reçu son âme et il est considéré comme étant un être humain à part entière. Et même s'il meurt à l'accouchement, il sera ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est interdit à ce moment-là d'avorter. Et combien de fois les médecins ils nous disent des choses et en vrai ça n'arrive pas. Combien de fois on voit dans les échographies, ah il manque un bras, ah peut-être il y a un problème au cerveau, ah peut-être il y a un problème au cœur. Alors ils poussent les gens à avorter. Et il y a des gens qui sont naïfs, il y a des gens qui sont niais, alors ils écoutent le docteur et ils avortent. Et d'autres que non, d'autres ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont jusqu'au bout et à la fin quoi ? Un bébé en pleine forme. Walhamdulillah. Donc ce n'est pas aux êtres humains de décider ou bien de savoir si ce fœtus à terme il va être en bonne santé ou non. Et quels que soient les progrès technologiques et quelles que soient les machines dont ils disposent, ils sont incapables de savoir si le bébé va être vivant ou mort à la naissance. Combien de bébés, pendant l'échographie, on n'a rien vu. On disait, c'est un beau bébé, il va bien, il n'a aucun problème, et à la naissance, il sort et il meurt. Et combien d'autres, on a dit, celui-là, il ne prend pas 2 mois, il ne prend pas 3 mois, et Hatalal, il est encore vivant. Autre type de meurtre que le croyant doit éviter, ce qui arrive souvent encore, ce qui concerne les accidents de voiture et de moto. Il y a des accidents de voiture et de moto qui sont provoqués presque, je dis bien presque, expressément et volontairement, et de deux façons différentes. Soit par transgression, c'est-à-dire, je suis conducteur d'une voiture et j'ai avec moi des passagers et je dépasse les limites de vitesse autorisées. Ou bien je m'engage dans une voie dans laquelle je n'avais pas le droit de m'engager. Et à la suite de ceci, il arrive un accident. Si un des passagers qui est avec moi perd la vie, je suis responsable de sa mort. Je suis responsable de sa mort. Et le deuxième cas, c'est dans le cas où il y a une négligence de la part du conducteur. Comme le fait de savoir qu'il y avait une pièce à changer dans le moteur. Ou bien le fait de rouler avec des pneus trop gonflés ou pas assez. Ou bien le fait de ne pas avoir réparé une pièce dont il savait qu'elle était en panne. Et ainsi de suite. Donc il y a soit la transgression, soit la négligence. Et quelle que soit l'une des deux raisons, si au bout de cela il arrive un accident dans lequel meurt un des passagers, le conducteur est responsable de la mort de cette personne-là. Et bien sûr, on reste toujours dans le contexte où toutes ces personnes-là sont des musulmans. Dans ce cas-là, le conducteur a ce qu'on appelle une kafara, une expiation. Cette expiation consiste à, petit 1, soit libérer un esclave, mais de l'autre côté. Petit 2, jeûner 2 mois consécutifs. Jeûner 2 mois consécutifs. Il n'a pas le droit de s'arrêter ne serait-ce qu'un jour, sauf s'il a une excuse religieuse valable, telle que le voyage ou la maladie ou ce qu'il s'ensuit. Il a aussi à payer tous les dommages collatéraux, par exemple la voiture qui a été détruite, ou bien tout ce que la personne qui a été tuée a perdu comme bien. Et il doit aussi payer ce qu'on appelle la diya, qui est le prix du sang, et qui est à la base dans le chara, sans chameau. Après, tu calcules le prix d'un chameau, ça coûte combien, et tu multiplies par 100, ou bien, pour revenir aux juges religieux islamiques, qui eux seront capables de déterminer le prix en fonction de la personne qui a été tuée. Et ce qu'on a aujourd'hui, nous, comme système d'assurance, dans le cas où il y a un accident et que le conducteur il est assuré, alors c'est l'assurance qui se charge de payer les dommages, sachez que ça ne lui enlève pas la kafara, ça ne lui enlève pas l'expiation qui pèse sur ses épaules, qui porte sur ses épaules, et devant Allah, tabaraka wa ta'ala, il restera redevable de ce devoir. Donc même si ton assurance paye les dégâts, il faut que toi tu t'acquittes de la kafara. Il faut que tu t'acquittes de l'expiation qu'Allah ta'ala t'a légiféré dans le Coran. Parmi les types de meurtres qu'on néglige, les morts qui sont causées suite à la cigarette. À la cigarette ou bien ce qu'on appelle chicha. Non, je ne sais pas si c'est un équivalent en français, vous savez, une sorte de machine bizarre dans laquelle ils mettent une sorte de pipe qui est accrochée à la machine et ils s'ouvrent dans des... Bref, c'est bizarre. Al-Hasil, ces éléments-là, le aqil, on ne rentre pas dans le détail, dans le musulman, le pieux, le salih. Le aqil, une personne douée d'intelligence, une personne raisonnable, elle sait très bien que dans la cigarette, il n'y a que des mauvaises choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit dans le Coran tout ce qui était mauvais. يُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Il vous autorise ce qui est bon pour vous et il vous interdit ce qui est nocif et mauvais pour vous. Et personne ici ne pourra nuire, ne pourra pardon contredire ou contester le fait qu'il y a dans la cigarette que du mal. Et wallah, nous on s'étonne, que ce soit ici dans cette mosquée ou dans d'autres, ou après la prière du vendredi, quand on sort, on trouve un hadith sort son paquet de cigarettes et puis il va s'enlever avec les gens, il sort de la mosquée, il sort son paquet de cigarettes, il en allume une et il fume. Hada, il n'a même pas honte du regard des gens sur lui, alors que sur ce minbar, on a déjà vu une rotba entière sur la cigarette et les drogues. Alors comment vous voulez qu'il ait honte du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui? Ensuite, la cigarette et tout ce qui se fume est la cause de nombreuses maladies, entre autres le cancer. Le cancer des poumons, ben le cancer de la gorge ou autre. Si le fumeur meurt suite à ces maladies qui ont été provoquées par la cigarette, il est considéré comme s'étant tué. Il est considéré comme ayant été la principale cause de sa mort. Autre type de meurtre qu'on néglige, et c'est un sujet d'actualité, on en parle souvent à la télé ces temps-ci, l'euthanasie. L'euthanasie, on appelle ça en arabe « qatlur rahma » ou bien « qatlur rahir ». Yani la mort douce, la mort miséricordieuse. Vous tous ici, vous savez que l'euthanasie consiste dans le fait de mettre fin au jour d'un malade qui est touché d'une maladie dans laquelle on n'espère pas une guérison. Donc on a deux types d'euthanasie. On a une euthanasie active ou une euthanasie passive. L'euthanasie active consiste à lui donner au malade, après qu'il ait lourdement insisté auprès du docteur ou bien auprès des responsables médicaux, de lui donner des médicaments ou bien des traitements qui auront pour conséquence l'arrêt de son système respiratoire ou bien carrément sa mort. La deuxième, l'euthanasie passive, consiste à arrêter de le soigner, de ne plus lui donner les médicaments pour qu'il meure de lui-même. Et ceci, mes frères, a été interdit par l'islam. Et nos grands savants l'ont interdit aussi, en suivant les principes et les règles de base de cette religion, qui est complète. Comme on l'a dit, Allah nous a interdit de mettre fin à nos jours. Inna Allah kana bikum rahima. Allah il est certes pour vous, du moins envers vous, miséricordieux. Et le prophète, alayhi salatu salam, il nous interdit de souhaiter la mort. Il dit dans le hadith, alayhi salatu salam, que l'un d'entre vous n'espère pas mourir. S'il est pieux, il pourra rajouter dans sa piété et avoir encore plus de récompenses. Et s'il est mauvais, il pourra se repentir et se faire pardonner ses péchés. Et dans le cas où vraiment tu n'en peux plus, alors invoque Allah et dis-lui, Ya Allah, fais-moi mourir si tu vois que dans la mort il y a pour moi un bien. Et fais-moi vivre si tu vois que dans la vie il y a pour moi un bien. Alors si le prophète, alayhi salatu wassalam, nous interdit de demander la mort et de la souhaiter dans la vocation, que dire alors de celui qui demande à son docteur de débrancher la prise ou bien d'aller lui donner des médicaments? Donc celui qui fait ça en tant que malade est considéré comme suicidaire. Et celui qui participe à ça en tant que docteur, infirmier ou autre, est en association avec le mourant dans le péché. Et comme on l'a dit tout à l'heure, de nombreuses fois, Allah subhanahu wa ta'ala est guéri. Il donne la guérison. Il guérit qui il veut. Combien de fois des gens on leur a dit, il ne vous reste plus que quelques semaines à vivre, plus que quelques jours à vivre. Et Allah ta'ala les a fait vivre des mois et des mois, voire des années. Hein? قال الشافعي رحمه الله وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. Combien d'hommes, de personnes en bonne santé et fortes sont morts sans aucune raison, sans aucune cause. Et combien de personnes malades ont vécu une partie de l'éternité. C'est Allah qui détermine le début et la fin de la vie de chacun. Et personne ici n'est capable de dire à qui que ce soit combien de temps lui reste à vivre. Abadan, tu ne peux pas savoir. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا لصلاتكم ورحمكم الله.